Cube Radio.
Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Pays sur Start. Mon nom est Christine et je suis en compagnie de Kazi et Raph. Allô!
Allô!
Comment ça
va?
Oui, Kaz est un Pokémon aujourd'hui. Hein? À chaque semaine, elle va être quelque chose de différent. On a décidé ça. Donc, ça va bien?
Ben oui, toi?
Ben oui. Écoutez, ça faisait longtemps qu'on s'était pas rejoint dans un épisode du podcast, mais là, on est de retour en bonne forme. On a des super belles nouvelles à vous raconter aujourd'hui. Ça va être vraiment cool. Donc, chaque semaine, on traite de différents sujets de l'actualité qui ont fait vibrer le monde geek et gaming. Et bien sûr, on vous rappelle que le podcast s'est enregistré en direct devant un très grand nombre de publics sur twitch.tv/paysurstart. Sans plus tarder, débutons cet épisode du podcast de Paysurstart. On commence le premier volet d'actualité avec, c'est quasiment de l'actualité, avec Kazi. Donc, Kaz, qu'est-ce que tu veux nous jaser cette semaine?
Ben, j'apporte des bonnes nouvelles. J'apporte des grandes nouvelles positives aujourd'hui. Ah, ça fait changement.
Bravo!
Incroyable.
On apporte plein de positifs. C'est une bonne nouvelle, mais c'est pas une nouvelle très surprenante. Je veux vous parler de l'événement E3, l'événement annuel E3. Ben, normalement annuel, on va dire, qui avait été annulé l'année dernière. On en avait parlé d'ailleurs. Qui a été annulé en raison de la pandémie. Bon, la pandémie est arrivée vraiment dans les moments de préparation. Où est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps de se revirer de bord puis d'offrir peut-être un événement numérique virtuel, tu sais. Mais bon, ils ont eu un an pour se préparer pour l'édition 2021 et effectivement, elle va avoir lieu cette année. Donc, du 12 au 15 juin, l'événement E3 va être diffusé en ligne. Donc, ça va être totalement numérique comme édition. Sous quelle forme numérique, c'est pas encore clair exactement. C'est sûr qu'on va avoir des diffusions des présentations, des conférences, des trucs comme ça, des panneaux. On en a souvent aussi des entrevues avec les développeurs de jeux vidéo. C'est sûr qu'on va avoir des trucs comme ça, mais ça serait intéressant d'en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui va remplacer l'événement sur place. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'événement, pour une grande première, va être totalement gratuit. Ça, c'est énorme. Parce que E3, normalement, c'est quand même un événement dispendieux. Je pense que quand tu y vas en tant que fan, d'abord, avant tout, l'événement a été longtemps réservé à l'industrie et aux médias seulement. Il est ouvert au public dans les dernières années. D'ailleurs, Christine, tu as été, en tant que média par contre, mais tu as été, je pense, à la première édition ouverte au public.
Oui, la première édition, il y avait tellement de monde. Aujourd'hui, ça serait pas OK.
ça serait pas OK aujourd'hui, surtout, tu sais, c'est des billets, je pense, d'une centaine de dollars, c'est très dispendieux, mais aussi, bon, c'est un événement qui se déroule normalement en Californie, donc si t'habites pas là, ben c'est aussi le prix de l'avion, le prix de l'hôtel, tu sais, de rester là pendant, c'est 5 jours, tu sais, environ, donc cette année, bon, ça va vous coûter rien pour assister à E3, ça va être diffusé en ligne. L'année passée, il y avait eu des débats autour de l'annulation de l'édition 2020, que c'était peut-être un mal pour un bien parce que ça forcerait l'ESA, qui est l'organisme, ben, dans le fond, ceux qui organisent l'événement, que ça leur offrait peut-être une opportunité de revisiter, peut-être revoir un peu leur formule payante, très industrie, très inaccessible un peu. Puis l'année passée, il y a Jeff Keighley, qui est bon mon héros, tout le monde le sait, c'est un journaliste vétéran du gaming, mais qui est surtout comme un genre de... C'est comme un curator du gaming, on dirait qu'il est surtout là pour parler avec tout le monde, puis de l'industrie, puis vraiment comme amener ça aux fans. C'est un peu ça sa mission, fait qu'il a lancé le Summer Game Fest l'année dernière, qui est un peu ce qu'on voulait que le E3 soit. Il a vraiment pris toutes les critiques que lui-même avait envers le E3, puis il a transformé ça en festival où est-ce que il rencontrait non seulement plein de développeurs indie, des trucs comme ça, mais il y avait aussi des gros dévoilements dans le cadre de ça, dont Tony Hawk, qui était un gros, gros dévoilement, qui était là, d'ailleurs, il était là de façon virtuelle, c'était tout fait sur Zoom. Puis, ce qui était le fun, c'est qu'on pouvait, pendant le festival, tester à maison plein de jeux. Donc, c'est ça que j'aimerais voir de la part de Trois pour l'édition 2021, c'est est-ce qu'on va pouvoir tester des jeux à la maison? Est-ce qu'ils vont essayer de trouver une façon d'intégrer le gamer à la maison à son événement? Parce que déjà, le gamer était loin de l'E3. Il n'était pas vraiment invité à ça. Et dernièrement, bon, ça s'est transformé plus en un genre de Comic-Con du gaming où est-ce qu'il y a des gros kiosques qui sont comme très brandés. Je me rappelle l'année que Breath of the Wild était sorti. Que Breath of the Wild était annoncé et dévoilé surtout. Il y avait comme un gros kiosque Breath of the Wild. C'était vraiment époustouflant. Mais c'est beaucoup d'argent marketing dans une formule peut-être qui est un peu, tu sais, ça me fait penser un peu à CES. Puis pour moi, CES, c'est comme encore, c'est pas le cas du tout, là. C'est vraiment l'impression que j'ai. Mais c'est un peu ça fait un peu pépère. je trouve que ça fait un peu plus techno pépère. On va parler d'imprimante. Mais ça, c'est ma perception. Je trouve que, tu sais, quand on représente la technologie puis les avancements technologiques, c'est intéressant d'ouvrir la porte à peut-être justement des nouvelles technologie dans la diffusion aussi. Fait que déjà, on pouvait assister aux conférences majeures de E3 depuis plusieurs années grâce à Twitch, YouTube, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour qu'on participe à la maison? J'ai hâte de voir ça. Il y a des confirmations de présence importantes quand même. Moi, j'aimerais ça en avoir un petit peu plus, mais bon, c'est encore tôt parce que l'événement a quand même lieu en juin. Donc, on sait à date là, que ça, c'est Kotaku et Destructoid qui ont confirmé ça. Nintendo, Xbox, Capcom, Ubisoft, Konami, Warner Bros. Games, Coach Media et Take-Two Interactive vont être là. C'est intéressant, mais c'est une petite liste. Ce que j'aimerais voir, c'est l'espace qui va être donné aux jeux indépendants. On sait que les conférences des Xbox, normalement, il y a quand même une bonne partie qui est consacrée à leur vitrine indie, parce qu'ils, bon, ils achètent plein de studios aussi. Donc, il y a ce qui est intéressant, mais ça reste des jeux indie pareils, tu sais. Puis Nintendo aussi, ce serait intéressant de voir s'ils vont faire quelque chose avec les Indies, qui est selon moi la perle de la Nintendo Switch, tous les jeux indépendants qu'on peut jouer dessus. Mais absent de la liste, évidemment, on constate que Sony n'est pas là. Sony n'est pas là. C'est peut-être pas une grande surprise parce qu'on sait qu'à l'E3 2019, ils avaient annulé leur présence sur scène. Ils étaient à l'événement, mais ils faisaient pas la grosse conférence annuelle à laquelle on s'attendait normalement, où est-ce que, mettons, Kojima descendait les escaliers puis disait « je suis de retour ». Il y avait pas de ça. C'était en marge de l'E3. C'était comme dans un autre stade à côté. C'était très étrange ce qu'ils ont fait. Et ils avaient déjà annulé leur présence à E3 2020 avant que l'événement soit annulé. Donc là, moi, je m'attends pas à ce que Sony rembarque dans l'événement bientôt, mais c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'ils ont quand même une nouvelle console.
Ouais.
Donc, il serait temps que Sony, tu peux faire le party avec tout le monde aussi, là, c'est correct.
T'as le doigt.
Je serais curieux aussi de voir un peu peut-être les raisons en coulisses derrière ce retrait-là de l'E3, parce que, tu sais, Sony a quand même utiliser certaines structures virtuelles l'année passée pour présenter des trucs par rapport à la PlayStation 5. Il y avait le Summer Games Fest, je crois qu'ils ont fait une certaine apparition. Ils avaient envoyé une manette à Jeff Keighley aussi, tu sais. Ils se retirent pas complètement, mais avec l'E3, ça a l'air pas mal complet, cette espèce de pas de côté-là. Donc, je serais curieux de voir un peu c'est quoi les raisons plus précises derrière ça.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est que Sony continue à faire ce que Sony fait. Fait que, tu sais, toute l'année passée, puis l'année d'avant aussi, on avait des diffusions, des genres de, tu sais, les Sony, comment qu'ils appellent ça? En tout cas, les showcases là, de Sony, on avait ça durant l'année, puis dans le fond, les gamers, nous, c'est pas mal juste ça qu'on veut. T'sais, on veut savoir qu'est-ce qui sort, quand que ça s'en vient, est-ce qu'on a du gameplay? Et puis, évidemment, bon, les dévoilements plus précis sur le hardware. Moi, j'avais comme pensé que peut-être qu'ils avaient annulé leur présence à 2019 à cause qu'il n'y avait pas de console à présenter. Puis 2020, ben, ils n'étaient pas prêts encore à en dire plus. Ou ils voulaient peut-être faire leur propre showcase. Fait que, tu sais, c'était comme... Je sais pas, peut-être qu'ils vont embarquer à dernière minute. Ça serait intéressant. Parce que Sony en a beaucoup à montrer cette année. Sony doit se prouver en 2021 pour dire, la console là, que vous venez d'acheter, qui vient de vous coûter deux bras, on a des jeux qui sortent bientôt dessus. Tu sais, il faut quand même qu'ils se présentent cette année. Il faut qu'ils padent un peu le dévoilement de la sortie de la PlayStation 5 parce que c'est un peu bof en ce moment. C'est un peu, c'est pas full intéressant. Aussi, Bethesda n'est pas dans cette liste. J'ai trouvé ça intéressant. Bethesda qui est pas là. Bethesda qui est reconnu quand même pour ses conférences un peu. Comment on pourrait dire? Un peu, pas rock'n'roll, mais tu sais, bon, sont un peu c'est un peu théâtral, ce qu'ils font. Tu sais, comme, OK, on a un jeu puis il sort maintenant. Tu sais, c'est un peu ça, leur angle. Fait que c'est le fun, les conférences de Bethesda, parce que tu t'attends toujours à une surprise ou quelque chose de le fun ou c'est un gros dévoilement puis évidemment des nouvelles de Elder Scrolls.
Ouais, puis c'est ça, Todd qui arrive puis qui dit on n'a pas de nouvelles.
On n'a pas de nouvelles, désolé. Moi ce que je veux par contre, c'est pas des nouvelles d'Elder Scrolls en ce moment. Moi je veux des nouvelles de Starfield.
Oh mon Dieu.
Donc j'aimerais ça que Bethesda fasse une conférence cette année à E3 pour parler de Starfield. Est-ce qu'ils vont être absorbés par Xbox, par Microsoft pour leur conférence? J'espère que non, parce que justement, les gamers, ils veulent pas, tu sais, que Bethesda devienne Bethesda sous Microsoft à temps plein, tu sais. On veut quand même qu'ils gardent leur identité, que ZeniMax quand même continue à encourager un peu l'identité de Bethesda qu'on apprécie quand même malgré tous les bugs de leur jeu. Fait que moi, ce que je veux voir dans les prochaines semaines, c'est une confirmation de Bethesda, mais aussi peut-être une attitude bon joueur de Sony. J'aimerais ça les voir à cet événement-là, parce que on est dans un contexte tellement tellement différent que les autres années. Je trouve que c'est peut-être une bonne idée d'être bon joueur dans tout ça, puis de faire comme hey, c'est aussi pour la communauté qu'on fait ça. Donc Sony, allô, je t'appelle.
Oh, c'est un appel que tu lances dans l'univers. J'espère que Sony va y répondre. Mais oui, le 3, tu sais, c'est sûr, E3 2021, je crois que c'est le temps d'innover. Mais ils n'auront pas le choix d'innover parce que, bon, ça fait un an qu'on est à la maison, puis ça fait un an qu'on voit des conférences. Fait que, comme ça, genre directement sur la télévision. Donc, ils n'ont comme pas le choix d'innover, puis d'intégrer plus. En tout cas, comme ton souhait le dit, d'intégrer plus le joueur que le client, le joueur à leur conférence, puis nous sentir inclus là, quand ils font ces présentations-là.
Ben oui, des petits tests, des petites démos là, à la maison durant les conférences. T'sais, mettons comme exemple que Sony est sur scène et annonce un nouveau jeu et dit la démo est disponible maintenant, elle va être jouable pendant les 7 prochains jours. Je connais pas ça, le développement de jeux vidéo. Je sais pas si c'est possible de faire quelque chose comme ça, mais ça m'intéresse beaucoup.
Ah oui.
Ça m'intéresse beaucoup, puis je trouve que le gamer doit se sentir comme s'il était à l'événement parce qu'il l'est pas cette année, il sera pas. Fait que, qu'est-ce que tu peux faire? Je trouve que Jeff Keighley a vraiment trouvé une recette qui était embryonnaire parce que c'était sa première run, là, la Game Fest. Le Game Fest, c'était tout nouveau. C'est pas un show totalement rodé, tu sais, c'était quand même, il y avait des petits malaises, des trucs comme ça, mais l'idée derrière a beaucoup de potentiel, puis ça on le voit avec les Game Awards depuis des années. Les premières années, on sait que ça a été quasiment catastrophique, là, à quel point c'était cringe, et les dernières éditions, ils ont été quand même pas mal bonnes, là, tu sais. Ouais. Bon, quand c'est pas Joseph Fares qui dit des mauvais mots à la caméra, c'est ça, mais ça reste, je trouve que c'est un bon show, puis je trouve qu'il y a les bonnes idées. Puis je me sens pas comme si c'est genre de la poutine trop industrie, tu sais. Fait que, intéressant!
Ben oui, donc à suivre en juin, ben pour les prochains mois, et à suivre en juin lors du E3, qui aura lieu gratuitement. Yay! Yay pour
puis
nous!
Puis on va en parler en maudit sur paysauceur.com, les amis.
Ouais, puis on n'aura pas à se déplacer. Ouais! Parfait. Ben, merci beaucoup, Kaz, pour cette belle nouvelle, super positive à propos du E3. Honnêtement, moi, je m'ennuyais du E3, là, puis parce que j'ai peut-être une relation différente avec le 3 vu que j'y étais, fait que...
Ouais, c'est ça, tu y étais, puis c'est comme notre messe...
C'est notre messe.
Une messe un peu pour nous, c'est comme notre Noël un peu, ça, puis les Game
exact,
Awards.
Exact, ouais.
C'est comme un peu notre petit moment de l'année où est-ce qu'on sait qu'il va y avoir des choses vraiment tripantes qui vont être annoncées.
Pour
même
Noël,
si les compagnies ont un peu pris contrôle, ils ont un peu pris contrôle de leur propre destinée en sortant leur propre conférence à travers l'année, tu sais, avec les Nintendo, les Showcase, tout ça, les trucs comme ça, je comprends. Les Nintendo Direct, c'est le fun. Mais on dirait que j'aimais ça quand il n'y avait rien durant l'année puis que ça tombait tout à E3. J'aimais ça, c'était comme bien excitant. Moi, ça me faisait beaucoup plus de job. Mais je sais pas, j'aime ça, les surprises.
Eh oui, c'est toujours le fun.
C'est un peu comme Noël.
sais, Noël.
C'est ça.
C'est, en fait, le futur Noël qu'on doit prévoir pour le budget qui va être attribué à Noël parce qu'il y a beaucoup de jeux qu'on veut acheter. C'est exactement ça.
C'est ça, c'est comme là qu'on se dit, OK, combien il faut que je budgette là, pour
voilà.
Acheter, mettons, dont 17 jeux.
C'était dont 17 jeux. Ben, merci beaucoup, Kasi. Donc, on va continuer notre affaire de nouvelles avec la niche à l'EMU. Cette semaine, pour la niche à l'EMU, j'ai trois nouvelles un peu absurdes, si on pourrait dire. J'ai eu envie d'aller visiter l'absurde pour mes nouvelles de niche. Et il y a une nouvelle que je suis comme contente qu'elle existe parce que j'ai pu plugger un film que j'aime beaucoup, mais que personne aime dans la nouvelle. Donc, première nouvelle, donc les douanes de Hong Kong ont saisi près de 300 cartes graphiques Nvidia dans une tentative de contrebande. Donc, la nouvelle a été rapportée par le site Tom's Hardware, qui a été traduit d'un canal de nouvelles chinois. Et pour vrai, l'histoire semble sortie tout droit d'un film. Donc, pour vous mettre en contexte. Donc, vers 2h du matin, les autorités chinoises ont repéré un bateau de pêche suspect ancré juste à l'extérieur de l'aéroport international de Hong Kong. Et ils ont vu qu'il y avait des passeurs qui chargeaient des boîtes du bateau de pêche sur un speedboat. Déjà, en partant, tu sais, il y a un speedboat d'inclus dans l'histoire,
C'est très Miami Vice.
C'est là. Ça. Donc, quand ils ont été repérés, les contrebandiers, ils ont sauté dans le speedboat, puis ils ont fui vers la côte. Ça a donné lieu à une poursuite à grande vitesse, presque digne de la poursuite en bateau du film Face Off. On se rappelle du film Face Off, hein? Avec Nicolas Cage et John Travolta. Mais moins les explosions. Si vous vous rappelez pas de cette poursuite, je vous conseille d'aller voir le film. C'est d'un goût exécrablement bon. C'est un film que j'aime beaucoup. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, les bandits ont finalement réussi à s'échapper, mais les autorités ont toutefois arrêté le propriétaire du bateau de pêche. Pauvre monsieur. Puis, donc, parmi les marchandises confisquées, il y avait des aliments exotiques, des produits technologiques, mais la plus grosse surprise, c'est qu'ils ont trouvé 300 cartes graphiques. Donc, le lot était estimé à environ 2 millions de dollars de Hong Kong, ce qui équivaut à environ 250 000 dollars américains. Et les cartes graphiques, c'était pas des cartes graphiques normales, tu sais, qu'on essaie d'acheter sur le marché présentement. Non, non. C'est des cartes graphiques qui sont destinées au crypto-minage. Littéralement. Donc,
ça a du sens quand même.
C'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui fait de la crypto-monnaie, qui n'a pas reçu son lot de cartes. C'est triste. Donc les cartes ont été identifiées comme des Nvidia CMP30HX et il y a pas de prix sur le site de Nvidia en tant que tel, mais on peut retrouver cette carte qui vaut environ 720$ sur le marché. Donc On peut déjà comme voir ce genre de crime-là. Je crois ça peut prévoir que ça serait pas étonnant d'avoir d'autres histoires à la face-off qui vont sévir à nouveau dans les prochains mois dû à la grande pénurie de cartes graphiques. Donc, c'est quand même assez étrange comme histoire, là. Dans les autres lots, ils ont trouvé aussi des cellulaires, ils ont trouvé des cocombes de mer, ils ont trouvé des ailerons de requin, ils ont trouvé ben des choses, mais les cartes graphiques...
Bon, tout ça sur le speedboat?
Tout ça sur le speedboat, man. C'est malade. fait que c'est ça, donc 300 cartes graphiques qui étaient destinées à la crypto-monnaie, ben au minage de crypto-monnaie, qui ont été saisies par les autorités. Elles sont supposées être détruites, mais bon, ça serait le fun que peut-être qu'on les appelle puis qu'on leur demande, yo, on peut-tu l'avoir, genre, pour mon rig, s'il vous plaît, parce que il y en a plus nulle part. Donc voilà, c'était une belle nouvelle. Je suis contente d'avoir plugué le film Face Off. Puis c'était ça.
Toutes les raisons sont bonnes de plugger le film Face Off.
C'est ça, voilà.
Non, t'as bien fait.
Prochaine nouvelle, c'est une nouvelle que j'ai volée à Raphaël. Donc, c'est il y aurait quelqu'un qui a payé une somme record pour acheter un Super Mario emballé, presque neuf, qui a payé environ... Raph, je crois que... En plus, je peux pas comprendre que cette personne-là a payé ça. 660 000 $ américains. Donc,
c'est fou, là.
C'est pas
tout
60
000. Tout ce que tu peux acheter avec 660 000 US. Tout ce que tu peux acheter, c'est incroyable. Beaucoup de choses.
Beaucoup de gumballoon, beaucoup de cartes graphiques.
Une maison.
Une maison sur l'île de Montréal.
Tu peux pas vivre dans ta cassette, là.
Non, c'est ça.
En tout cas.
Donc, l'exemplaire en question a été mis en vente, une enchère menée par Heritage Auction. Et cette vente est devenue... donc le jeu qui s'est vendu le plus cher depuis toujours. Donc le record appartenait avant à une copie de Super Mario 3 qui avait été vendue pour la somme de 156 000 $. Et puis avant, c'était une autre cassette de Super Mario qui elle aussi avait été vendue pour 114 000 $. Donc 660 000, c'est beaucoup d'argent, là. Il y a quand même une grande différence entre 660 000 et 156 000, tu sais. Il y a quelqu'un qui a monté ses enchères, là, vraiment beaucoup. Donc.
Ben ouais, c'est quoi les facteurs?
C'est un troll?
Je sais pas. Ouais.
Les facteurs? Qu'est-ce qui a fait que ça a monté de même, là?
Ben, c'est sûr que la carte était, la carte, pardon. Le jeu vidéo était, scellé avec l'étiquette parfaite là. Donc je pense qu'il avait jamais été ouvert si je me trompe pas selon ton texte.
Il était mint.
Mm-hmm.
Ouais. Mint, ça veut dire pas de boîte ouverte.
C'était une édition, tu me corrigeras si je me trompe, Christine, c'était une édition qui était aussi quand même très rare, qui était ouais. Je crois que après le Nintendo ou après le nom du jeu, il n'y avait pas le signe copyright. En tout cas, il y avait un petit truc un peu spécial ouais. qui faisait que c'est une fenêtre très, très étroite de production de ce jeu-là.
Dans le fond, c'est la quatrième version de Super Mario Bros. Qui a été vendue dans les années 90. Donc, c'était comme vers la fin de la production des cassettes Nintendo pour le NES, okay. dans le fond. Fait que c'est vraiment une version, c'est ultra niche, donc digne de la niche à l'émue.
Ah oui, donc ça a sa place dans ta chronique.
Donc c'est ça, c'est ultra niche. Elle a été cotée à 9.6 selon l'échelle de Wata Games, puis vendue pour un peu plus qu'un demi-million de dollars. Pour moi, ça c'est extraordinaire. Et c'est de voir, je pense que ça sera pas la dernière qui va être vendue à ce prix-là. Parce que de plus en plus de gens retrouvent des morceaux uniques perdus dans des greniers, cachés nulle part ou en dessous des tablettes. Je me rappelle d'histoires de jeux Nintendo 64 qui ont été retrouvés en dessous d'une tablette d'un Zellers quand le Zellers a été défait, quand les Zellers ont fermé. Même chose chez Toys R Us. Écoute, fait, je pense qu'on va retrouver des affaires comme ça va être magnifique, ça va être beau de voir le marché, mais en même temps, tu sais, ça fait fluctuer aussi le prix du marché pour les cassettes usagées puis les rétro les collectionneurs.
Ouais,
rétro.
c'est que ça crée un précédent aussi, ouais. Tu sais, je crois que ces ventes aux enchères là vont toujours s'accoter un peu sur ce qui a été vendu précédemment et à quel prix ça a été vendu. Donc c'est certain d'avoir une somme astronomique comme ça pour un jeu qui, bon, c'était pas les mêmes éditions, mais quand même qui a été vendu pour à peu près 3-4 fois moins dans la précédente vente aux enchères. Ben, ça crée un précédent dangereux.
Exactement. Fait que ça va être très beau de voir comment les prix vont fluctuer dans la prochaine année ou le prochain mois, surtout que j'imagine que la pandémie doit aussi de faire un facteur vu que bon c'est plus difficile d'aller en magasin puis de trouver des jeux directement ou même d'aller voir les gens chez eux. Fait que voilà, c'était une super pour vrai c'est une super nouvelle que j'ai très hâte de voir parce que c'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'enchères là avec des prix faramineux là, tu sais On l'a vu avec la carte Pokémon, la carte Charizard, il y a 2 semaines. Puis le dernier, tu sais, le dernier record a été, c'était un prototype de Nintendo PlayStation qui avait été vendu à 360 000 $. Déjà, ça, c'est un prototype. C'est quelque chose qui a jamais été produit en grand nombre, qui a jamais été vendu sur le marché. Donc là, quand on parle vraiment d'un jeu qui a été vendu sur le marché, qui est scellé, c'est à plus d'un demi-million de dollars, ben je trouve ça quand même assez impressionnant. Et ben, tu sais, en tant qu'collectionneur, moi, ça me fait un peu peur aussi, là, tu sais, parce que ça commence à être moins achetable, là, des cassettes, là, donc...
ça commence, oui!
Ouais. Tu sais, il y a des cassettes que tu te dis, hey, bon, ben finalement, c'était mon jeu préféré, puis ben je l'achèterai pas, hein, parce que... c'est pas achetable. Voilà. C'est ça. Fait qu'on fait, on commence à faire des croix sur des jeux que finalement on n'achètera jamais, puis ça va être triste. Puis là, ben, on mange de la crème glacée, puis on pleure. C'est ça. Et troisième nouvelle, ma dernière nouvelle, c'est une belle nouvelle parce que je suis vraiment contente. Moi, je suis une Trekkies, OK? Je le dis haut et fort. J'aime Star Trek, mais j'aime Star Trek TNG, OK? Moi, j'aime le Star Trek parce que c'est full philosophique, puis il y a full de morale, puis c'est le fun, OK? Je suis tombée sur une nouvelle que il y aurait une pétition en ce moment qui tourne sur le web, sur change.org, pour que LeVar Burton, qui a joué Jordi LaForge,
oui,
soit le prochain animateur pour Jeopardy.
Donc, oui, j'ai vu ça aussi, j'étais tellement contente.
Je suis tellement contente. Et ce qui est le fun avec tout ça, c'est que, d'ailleurs, je vous invite à aller la signer après le podcast, s'il vous plaît. C'est que LeVar Burton a lui-même partagé la nouvelle sur son Twitter et a dit « Je laisse ça ici en cas que il y ait des gens qui nous écoutent, tu sais. » Donc donc LeVar Burton lui-même aimerait ça prendre le poste de qui a été laissé vacant par le défunt Alex Trebek. Il a d'ailleurs aussi été il y a aussi une autre célébrité qui encourage sa candidature, Dick Van Dyke. Donc, si vous le connaissez pas, je vous invite à aller voir Mary Poppins. C'est le petit monsieur.
Oui, c'est ça, j'allais dire.
C'est ça.
Avec son super accent britannique. Ouf.
Je l'aime tellement, là. Mais en tout cas, Dick Van Dyke, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, que je garde dans mon cœur.
Attends, Dick Van Dyke, il y a Internet?
Ouais. Dick Van Dyke.
Il y a pas genre 200 ans?
À peu près. Écoute. À peu près. Puis, écoute, il est comme Anthony Hopkins qui fait des vidéos bizarres, genre, sur le web. Moi, j'adore Anthony Hopkins. Mais, je m'éloigne du sujet. Il y aurait Stephen Colbert aussi qui a montré son support à LeVar Burton. Donc, si vous voulez voir Jordi LaForge animer Jeopardy, je vous invite à vous rendre sur change.org et de trouver la pétition parce que ça va être magnifique. Moi, j'aimerais ça revoir LeVar Burton à la télévision parce que LeVar Burton, on s'entend-tu que c'est une des meilleures personnes au monde? Il a quand même fait Reading Rainbow. Il encourageait les jeunes à lire. On s'entend-tu que c'est genre extraordinaire? Puis il portait une patente devant ses yeux, puis il était capable d'être un acteur.
Ben, moi, à chaque fois que je pense à LeVar Burton, je pense pas juste à Star Trek, mais je pense aussi à l'épisode de Community que Troy rencontre LeVar Burton, mais qu'il voulait pas le rencontrer parce qu'il l'aime trop. Puis c'est comme trop intense, c'est trop un gros moment dans sa vie. Puis
oh
il est comme incapable d'y parler, puis il est juste freezé devant lui, puis il est comme la face... super impressionné. Ça me fait toujours penser à ça. Ben, évidemment, tu sais, je veux pas rien enlever à Jordi LaForge. Là. C'est quand même légendaire comme personnage. Puis cette saison, hein, TNG, quand même.
C'est extraordinaire. Moi, j'aime. Ben, tu sais, moi, TNG, j'aimerais ça me faire tatouer TNG quelque part sur mon corps parce que j'aime beaucoup TNG.
Mais c'est bon,
là.
TNG.
Oui.
C'est pas. Ben, moi, j'étais pas tant fan de Star Trek en général, mais tu sais, quand C'est vrai que c'était rendu, c'était comme un soap un peu dans l'espace, mais c'était comme, c'était plus intelligent, on dirait, que les autres versions.
C'était très intelligent. D'un, ils se battaient pas contre des lézards en plastique dans des drôles de studios, là. Non, tu sais, c'était vraiment intelligent, ça amenait des sujets très, très sensibles. Dans un des épisodes, je me rappelle, ça m'avait frappé, là, quand j'étais jeune, puis quand je l'ai réécouté plus vieille. Un épisode où est-ce que il parlait de d'un être qui est comme androgène, puis ça parlait genre justement de sexualité, d'identification sexuelle, de genre et tout. C'était comme, on parle des années 80, là, tu sais, c'est quand même quelque chose qui était poussé pour les années 80. Puis il y avait déjà parlé de ce sujet-là qui est encore très d'actualité aujourd'hui, tant mieux, tu sais.
Donc encore très incompris aussi, c'est ça. Qui est tabou, mettons dans les plateformes plus traditionnelles. Là.
Exactement. Donc que TNG amène ce genre de sujet-là, qui ouvre la discussion à ce genre de sujet-là, moi je trouvais ça extraordinaire.
Patrick Stewart. Hein?
Patrick Stewart est un homme magnifique. Moi, j'étais en amour avec Jonathan Frakes, qui jouait le commandant Riker. En amour fou avec lui. Encore aujourd'hui, je le trouve très sexy. Je me gêne pas de le trouver sexy. Et bien sûr, LeVar Burton, que j'aimais énormément d'amour. Et bien sûr, c'est ça, je terminerai là-dessus. Je souhaite que LeVar Burton joue le rôle de Alex Trebek, prenne le rôle d'Alex Trebek à la barre de Jeopardy, et dise à ses aux participants qui sont niaiseux de répondre à ces affaires-là. Moi, c'est mon rêve, là. Parce qu'Alex Trebek, il gênait pas de faire comme t'as vraiment répondu ça. Ah, oh, moi j'aimais ça. T'sais, plus il vieillissait, plus il était sassy. Queen! Voilà. Fait que c'est ça. Donc, c'était mes trois belles nouvelles de la niche à l'EMU. J'ai été très niche aujourd'hui et je ne regrette rien.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Alors, sans plus tarder, on passe à la chronique de Raph. Raphaël, donc on n'a encore pas trouvé de nom pour ta chronique, c'est notre inside joke. Si vous avez des suggestions, allez dire ça sur Discord. Raph!
Jamais, elle n'aura jamais de nom.
Jamais. Raph, cette semaine, tu nous jases de quoi?
Cette semaine, je vous parle d'un jeu très spécial qui arrive ce soir sur la Nintendo Switch. J'ai nommé Pac-Man 99, qui est une version Battle Royale du classique de Namco. Donc, la semaine passée, Mario Bros est mort. Ben en fait, c'est ce qu'on pense. du moins, Super Mario Bros. 35, qui était le Battle Royale inspiré de Super Mario Bros. Est disparu du Nintendo Store. Ce qu'on savait pas et ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est qu'en fait, Nintendo avait une petite surprise pour nous pour remplacer un peu ce Battle Royale très spécial par un autre qui est visiblement tout aussi particulier. Donc, Pac-Man 99, qu'est-ce que c'est Pac-Man 99? Eh bien, c'est un Battle Royale qui va ressembler un peu beaucoup à Tetris 99. Si vous connaissez Tetris 99, c'est un Battle Royale qui est sorti il y a maintenant près de 2 ans environ, là, si ma mémoire est bonne. Ça fait quand même un petit moment. Et qui reprend lui aussi les principes là quand même de base de Tetris. Ben Pac-Man, c'est un peu la même chose. Imaginez-vous Pac-Man, sauf que vous êtes en compagnie de 98 autres joueurs, donc c'est un jeu multijoueur en ligne. Et essentiellement, vous devez bien performer à Pac-Man pour réussir à envoyer des problèmes et des ennuis aux autres participants pour que eux ne réussissent pas et abandonnent et que vous soyez au final le seul et dernier survivant de la bataille. comment ça fonctionne? Peut-être plus concrètement, en fait, c'est que, bon, pour envoyer des ennuis, des espèces de Pac-Man ennemis, en fait, à vos propres ennemis, ce que vous devez faire, en fait, c'est manger des fantômes. Bon, ça, c'est pas une surprise pour personne, mais un peu comme Tetris, où est-ce que vous voulez accumuler vos blocs pour éclairer des lignes, bon, en grande quantité pour réussir à envoyer de plus grosses embûches à vos ennemis dans Tetris 99. Mais dans Pac-Man 99, c'est un peu la même chose, où est-ce que idéalement vous devez manger le plus de fantômes consécutivement pour envoyer de la grosse cochonnerie, si vous me passez l'expression, à vos ennemis. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir, ce qu'il n'y a pas dans le jeu original, vous allez avoir de petits fantômes dormants, si vous voulez, que vous pouvez activer en passant sur un point. Et en les activant, ils vont s'ajouter aux fantômes existants. Donc, vous allez vous retrouver avec une grosse quantité de fantômes. Et dès que vous mangez un point qui vous permet ensuite de manger les fantômes, ben vous allez pouvoir manger une série de, mettons, une vingtaine de fantômes consécutifs. Puis ça, ce sera quelque chose. En fait, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de télécharger le jeu. Si vous êtes un membre de Nintendo Switch Online, ça coûte quelques dizaines de dollars par année. C'est le service en ligne de Nintendo. Vous allez avoir accès gratuitement à Pac-Man 99. Donc, ce que je vous conseille, si vous êtes membre de Nintendo Switch Online, c'est tout simplement de télécharger le jeu. Il est gratuit. Essayez-le dès ce soir, donc mercredi soir, 21h, heure du Québec, sera disponible. Sinon, entre-temps, si vous nous écoutez live, on vous rappelle qu'on est live en ce moment sur Twitch, vous pouvez aller voir la bande-annonce et peut-être beaucoup mieux comprendre comment le jeu fonctionne que mes explications un peu boboches. Somme toute, je me suis dit que j'allais aussi profiter de l'occasion pour faire un petit commentaire. Parce que là, bon, c'est bien beau, Pac-Man 99, mais ça permet de voir que la frénésie, si je peux dire ainsi, pour les Battle Royale, quand même, se poursuit. On a eu des Battle Royale quand même à toutes les sauces depuis 3 ans environ, puis l'arrivée, bon, de PUBG, de Fortnite, il y a eu Warzone plus récemment. Donc, on pense beaucoup aux first-person shooters ou aux shooters en général qui vont avoir, différentes variantes de Battle Royale, mais depuis quelques années, il y a quand même dans cette folie-là plusieurs volets peut-être un peu plus atypiques, on pourrait dire. Bon, il y a eu Tetris 99, Super Mario Bros 35 par la suite, Pac-Man 99 qui arrive, il y a eu Fall Guys aussi dans le genre Battle Royale qui sortait du moule peut-être habituel. Mais ça m'a fait réfléchir un peu cet après-midi, Pac-Man 99. Donc, je vous ai fait peut-être pour conclure l'émission une petite liste de Battle Royale qui, selon moi, sont les prochains sur la liste que moi, je veux voir apparaître, qui me tiennent à cœur. Et que j'espère que, tu sais, il y a beaucoup de développeurs talentueux, de petits et de grands studios qui ont du talent à Québec, à Montréal, dans la province, en fait. Et j'espère qu'il y a quelqu'un quelque part qui nous écoute en ce moment et qui va prendre la balle au bon. Ce sont des projets gratuits, je vous les donne. Faites-les, c'est tout ce que je demande.
Wow.
Premièrement, peut-être le premier sujet sur lequel je me demande pourquoi il n'y a pas de Battle Royale en ce moment, c'est la fameuse compétition de mangeurs de hot-dogs. Moi, je me demande pourquoi il n'y a pas personne qui a créé un Battle Royale de mangeurs de hot dogs. Ça pourrait se jouer un petit peu comme un track and field où est-ce que tu dois, tu sais, taper sur des suites de boutons, comme un parapapa de rapper un peu, là. Un jeu de rythmique, tu dois manger tes hot dogs. Puis, tu sais, là, ça pourrait être beau visuellement aussi, une grande table avec 99, tu sais, tu peux te faire un avatar, là, 99 mangeurs de hot-dogs côte à côte, là, sur une grande table, là, un peu comme la dernière scène, là. Là, tu vois tout le monde selon ton beat, là, tu manges tes hot-dogs.
C'est comme Beat Saber hot-dog,
c'est malade.
Ouais.
Beat Saber Hot Dog 99, voilà. Mais attends, est-ce que les gens mangent des vrais hot dogs ou c'est des hot dogs numériques, là, des hot dogs virtuels?
Virtuels.
Ben, de base, je crois que ce serait virtuel, mais tu pourrais peut-être avoir un add-on où est-ce que tu te mets peut-être un capteur sur l'œsophage ou quelque chose du genre.
Ben, tu sais, avec Nintendo Switch, là, avec One Two Switch.
Oui, c'est ça, le...
Ouais. One Two Switch, là, celui que tu mangeais un sandwich qui était comme vraiment suggestif, là, peut-être.
Mm-hmm. Hein? Ben oui, oui. Ben écoute, ça pourrait probablement se faire, mais en tout cas, concours de mangeurs de hot dog en Battle Royale, moi je crois que c'est tout
vendu.
Désigné.
Moi je suis vendu déjà.
Bon. J'aime ça quand Raphie est niaiseux.
Tant mieux.
J'aime ça quand t'es niaiseux.
Ça m'arrive quelquefois, à l'occasion. ben, parlant de bouffe, ma blonde puis moi, ces temps-ci, on est sur une rage de Masterchef. On écoute beaucoup de Masterchef et ça me fait dire... Un battle royal de Masterchef, pourquoi il y en a pas? Tu sais, un genre de mix entre un jeu de cuisine puis un battle royal très punitif, tu sais. Là, dans ce cas-là, la punition, ce serait Gordon Ramsay qui te crie après avec son accent anglais. Mais ce serait incroyable, vraiment. Tu sais, il y a de la profondeur, je crois, dans un jeu de bouffe, de nourriture, tu sais. Fait que tu prends ça, tu prends la licence de Masterchef avec leur pressure test, leur genre de concours d'équipe un peu wild, puis tu pourrais vraiment avoir un genre de battle royale qui se tient, je pense.
Ça ferait comme un Overcooked, c'est pas collaboratif dans le
genre
fond.
Ou Cooking Mama aussi, hein, tu sais.
Ouais, parce que de toute façon, tu sais, tu parles d'Overcooked, mais c'est jamais vraiment collaboratif, même si tu joues tout ensemble, tu finis toujours par te fâcher puis te battre. Fait que tu sais, imagine ça, mais dans un format Battle Royale avec Gordon Ramsay qui t'envoie chier en même temps, ce serait...
It's raw! Mais
ça, Québécois, c'est Ricardo.
Ouais, mais Ricardo, il est agressif.
Ricardo, il est fin, il t'encouragerait.
Ça serait bon. Ouais.
Ou tu sais,
à la limite avec ça serait bon ça. Ou tu sais, à la limite Jean-Luc Boulet qui dit juste que tu sais, il y a pas assez de beurre ou tu sais que t'as utilisé un cuiseur sous vide puis qui te dit ça sert à rien. je pense que ce serait vraiment bon. Fait que bref, un battle royale de Masterchef. Prenez des notes.
Il est tellement con.
J'adore ça.
ensuite. Tu sais, ces temps-ci, on peut pas faire grand-chose. On est, bon, reconfiné pour pas mal tout le monde, en fait. Moi, j'habite à Québec, c'est pire, là. Mais en tout cas, en général, c'est pas super. Fait que ça m'a... Je réfléchis beaucoup, en fait, aux réunions sociales que j'ai eues dans les dernières années, puis desquelles j'ai peut-être pas assez profité. Ça m'habite beaucoup, ces temps-ci. Puis... En même temps, j'ai quand même pensé à quelques parties de Noël que j'ai eues qui étaient plates, qui étaient pas nécessaires, qui étaient comme un peu obligatoires socialement, tu sais.
Ouais.
Je parle pas des parties de job de nous autres, là. C'est des beaux parties de job, mais dans ma vie, j'ai eu des parties de job qui étaient comme moyens un peu.
Ben
puis tu sais, tu y vas pour faire bonne impression, parce qu'il faut que tu y ailles. Fait qu'imaginez un battle royal de party de Noël plate où est-ce qu'il faut que tu sois le dernier à rester. Puis t'as comme quelqu'un qui t'explique, tu sais, t'as des conversations, t'as quelqu'un qui essaye de t'expliquer de quoi qui est vraiment plate, qui t'intéresse vraiment pas, mais il faut que tu sois là, faut que tu l'écoutes. Puis tu sais, là, ça pourrait être comme un peu, pas un point and click, mais un peu un jeu narratif où est-ce qu'il faut que t'écoutes la personne qui te parle. Puis, là, t'as des prompts une fois de temps en temps où est-ce qu'il faut que...
Pour tester si t'écoutes, ouais.
Pour tester si t'écoutes vraiment. Puis là, c'est en ligne. Puis là, tout le monde écoute comme le mononcle plate qui jase, tu sais.
Oui.
Tu sais, c'est celui qui reste à la fin. Tu sais, ça pourrait être parties qui durent genre 13 heures, là, des affaires de malade. Ça prendrait des bons serveurs, mais...
À la fin, là, tu fais un duel dans la porte.
oui, le niveau final, c'est dans le cadre de porte.
Ah ouais.
Moi, j'haïs ça en plus, édition de cadre de porte. Je me sens comme mal à l'aise. T'sais. Quand tu décides de partir, ben c'est la fin, là, d'habitude. Là.
Oh my God.
Trouver tes souliers, trouver ton manteau.
Ouais.
Ah, ouais. Les manteaux sont tous sur le lit en haut. Il faut que tu montes les escaliers.
Oh my God.
Ouais, là, il y a ta tante qui te parle de la méditation pleine conscience.
Oh my God, oui.
Puis des huiles essentielles.
C'est ça. Puis tu sais, il pourrait avoir comme une version peut-être pour la Switch où est-ce que d'une main, il faut que tu répondes au prompt de ta tante, c'est ça, qui te parle comme de, des affaires surnaturelles un peu. Puis de l'autre main, faut que tu tasses les manteaux sur le lit pour essayer de trouver le tien, genre.
C'est
là, il y en a trois qui sont pareils, ton modèle de manteau, puis là, faut que tu le revires à l'envers pour voir le tag, là, pour être sûr que c'est à la bonne grandeur, tu sais, ou tu fouilles dans les manches pour voir si c'est la, c'est ta tuque, tu sais.
En ce moment, je vis tellement de plus beaux moments de ma vie en ce moment, là, c'est incroyable.
Écoute.
Continue,
imagine
s'il vous plaît.
Imagine si c'était produit en série, tu sais, si quelqu'un développait ça.
J'espère qu'il y a des devs qui nous écoutent, là. S'il vous plaît, développez ça. Il y a des simulateurs de tout. Pourquoi pas des simulateurs de party de Noël?
Eh ben là, tu sais, je pense que ça prendrait ça. Surtout ces temps-ci, tu sais, je pense qu'il y a vraiment une opportunité. Parlant de party, peut-être une idée qui est plus facile à développer parce que le jeu existe déjà et ça prendrait pas grand-chose pour le transformer en Battle Royale. C'est-à-dire un Battle Royale de Guitar Hero. Imaginez-vous, là, genre la pire chanson de, je sais pas, là, de Dragon Force, mettons, là, à extrême. Puis là, t'es 99. Faut que tu te rendes à la fin de la toune. T'sais.
Faut pas que tu manques une note, là.
Faut pas que tu manques une note. Dès que tu manques une note, t'es éliminé.
Ça.
Ah, c'est
fait
bon,
que là, tu fais 99, c'est celui qui se rend le plus loin. Tu sais, on s'entend, ça existe, là, le principe de Guitar Hero, tu sais. Fait que... Puis en même temps, ça te permet de revendre un paquet de guitares, tu sais, puisque bon, tout le monde a une guitare de Guitar Hero chez eux.
Oui.
Mais personne n'a enlevé les batteries dedans. Puis je vous jure que vous allez sortir votre vieille guitare de Guitar Hero, genre après le podcast, après avoir entendu le podcast, vous allez aller checker les batteries, vous allez voir que les batteries ont coulé dedans, vous allez mettre des batteries neuves, votre guitare ne marchera pas plus. Fait que long story short, vous avez une guitare chez vous, mais vous allez devoir en racheter une quand ils vont sortir Guitar Hero Battle Royale.
Parce qu'ils ont coulé.
T'as-tu quelque chose à nous raconter?
Activision,
là. T'as-tu comme une expérience triste à nous raconter? Là?
Ben, écoute, je peux faire une petite parenthèse puis dire que, parenthèse de parenthèse, j'ai un groupe de musique, je joue de la musique, des vrais instruments avec des amis. Et à chaque Noël, on se fait un party de Noël où est-ce qu'au lieu de jouer des vrais instruments, on joue des instruments de plastique. C'est un party de Noël de Guitar Hero. Puis, ben, c'est arrivé, là, il y a 2-3 ans, de trouver des batteries qui avaient coulé dans une guitare de Guitar Hero. C'était très frustrant.
C'est un effet de crusty, fait, là,
C'est ça. Puis après ça, les capteurs, t'as beau les nettoyer, ça fonctionne pas vraiment, en tout cas, bref. Un cauchemar, je vous le dis, un cauchemar. Parlant de cauchemar, ça m'amène à ma prochaine idée, qui pourrait aussi requérir un périphérique, là, tiers, si jamais ça vous tente, un jeu de pêche en Battle Royale.
Oh.
Imaginez, là, un jeu de pêche en formule Battle Royale où est-ce qu'il faut pas que ta ligne casse.
Oh.
Puis il faut que tu te rendes jusqu'à la fin. Puis il pourrait avoir comme un deuxième niveau, en fait, que faut non seulement faut pas que ta ligne casse, mais aussi il faut que... t'aides comme les meilleurs poissons. Fait que, tu sais, ça, il pourrait comme avoir des tiers, comme un premier tiers où est-ce que, il garde comme les 60 meilleurs, c'est 99. Puis là, tu sais, tu passes au prochain tiers. Puis, tu sais, comme un peu les qualifications en Formule 1, c'est des qualifications de pêche, mettons.
OK.
Puis, ce serait bon, ce serait insane. Tu sais, comme les Sega faisaient des manettes de pêche, là, me semble, à l'époque, là.
Oui.
Tu sais, que t'as comme un petit moteur, puis t'as comme l'espèce de fil à pêche, là, qui rentre dans la machine, puis là, ça te donne comme un genre de force feedback, là, avec ton moulinet, puis tout, là.
C'est un Nintendo Labo.
Ouais, Nintendo Labo.
Écoute, peut-être si Nintendo nous écoute, ça pourrait fonctionner avec le Nintendo Labo. J'en ai deux petits derniers rapidement. On parle de périphérique. Un périphérique que l'on a tous sur un appareil proche de chez nous et un micro, OK? Fait qu'imaginez-vous un Battle Royale de Virlang ou de Tongue Twisters. où est-ce que t'es 99 personnes dans un lobby en ligne, puis t'as une phrase, mettons, les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Même moi, j'ai de la misère à le dire d'une shot. Là. Faut que tu le dises non-stop, non-stop, non-stop. Puis l'intelligence artificielle là, détecte ce que tu dis. Puis dès que tu t'échappes, que tu dis de quoi tu croches, t'es éliminé.
T'es out.
Ça, il y a de l'argent à faire.
Ben Raph, oui. Je me demande, là, t'étais dans quel état quand t'as eu cette idée-là? Je me demande à quoi tu pensais? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie le moment que t'as eu cette idée-là?
Écoute, j'étais dans mon bureau, je fixais dehors, il y avait des gens qui ont été engagés par le bloc pour balayer la pelouse, tu sais, comme avec des affaires pour balayer comme électrique. Là, des espèces de balais qui tournent comme un rotor, je sais pas trop.
Ouais, comme un rotor, oui.
Je sais pas, il y a du monde qui entretenait la pelouse dehors, je regardais ça, puis je sais pas, j'ai comme eu quelque chose. Quelque chose qui s'est passé. Bref, un jeu de virelangue. Pensez-y.
Hey, imagine ça sur Twitch, quelque chose sur Twitch de même, là, ça serait très, très drôle à regarder.
Oui.
Je pense que ce qui est le fun avec ça aussi, c'est que c'est un projet que vous pouvez partir vous-même à la maison sans intelligence artificielle, puis juste utiliser l'honnêteté.
Ouais. Hein?
Puis peut-être partir à un beau petit tournoi de virelangue en gang.
OK, mais faites ça dans
un party de Noël plate.
Ouais. Ben oui.
C'est les parties de Noël qu'on parlait tantôt.
Sur Zoom,
là.
C'est ça. C'est plate.
Ben, écoute, c'est ça.
Moi, je joue à House Flipper sur le côté, puis je le dis pas. Pendant mes réunions de famille Zoom.
Oh my God.
Mais c'est parce que ça parle beaucoup un par-dessus l'autre, hein. Puis ça parle ça parle de méditation. Puis je dis, OK, c'est correct, là.
C'est dur de prendre la parole, je trouve, dans un genre de 5 à 7 Zoom, là.
Ben, j'aime ça regarder le monde parler. Mais tu sais, en même temps, je peux jouer à House Flipper on the side. Personne ne sait.
Ah, effectivement. Faut juste pas que tes lunettes soient trop réfléchissantes.
Hein. Ouais, non, c'est ça, exactement.
Trahir, ça. Et un petit dernier, Battle Royale. Bethesda aime beaucoup. Ils appartiennent à Microsoft, fait que je sais pas si cette tendance-là va se poursuivre, mais Bethesda aime bien sortir Skyrim à toutes les sauces. On a eu Skyrim, l'édition de luxe. On a eu l'édition ultime, je me rappelle plus du nom exact là.
VR.
Il y a eu Skyrim VR, exactement. Il y a eu Skyrim pour la Switch, une version réduite un petit peu. Il y a eu Skyrim à peu près partout. Un Battle Royale de Skyrim. Et la seule twist, tout ce que tu as à faire pour gagner la partie de Battle Royale dans Skyrim, dans cette version Battle Royale là, c'est de finir le jeu. Il y a personne, presque, qui finit Skyrim.
Ben non, personne finit ça.
Imagine que t'es en compétition avec comme 99 autres personnes, puis tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est toutes les quêtes que tu finis Skyrim, tout simplement.
Un battle royale qui dure des années, genre.
Ouais.
Oh my God.
C'est ça. Je pense que c'est la prochaine étape dans le monde du battle royale. C'est des battle royale comme ça, extrêmes, où est-ce que c'est ta vie? Ta vie devient un battle royale.
Ah, c'est bon, ça. Bon, on est rendu dans un monde de numérique virtuel weird depuis la pandémie. Fait que je trouve pas si fou que ça.
Non, c'est ça. C'est
très Hunger Games.
Oui, ben c'est exactement ça. Ouais. C'est Hunger Games de Skyrim.
C'est ça.
Oh
c'est sauf que tu tues pas personne. Fait que ça, c'est bien. Dans le positif versus Hunger Games, c'est que tout le monde reste en vie.
Ouais.
Physiquement, peut-être pas émotionnellement, peut-être pas en dedans.
Je viens de vivre un moment. Là. On a vécu un moment, je pense que quasiment on peut le dire. On a vécu un moment grâce à ta chronique, Raph.
Raph, il est de retour de congé de Pascal.
Ouais,
hein, fait que il a eu le temps de se reposer.
Ouais, ouais.
Il est arrivé prêt.
Résurrection qui me transperce.
Oh. C'est ça. C'est le soleil de Jésus brille sur toi et tu es un homme nouveau. Tu nous sors des belles idées. Je sais qu'il y a d'autres affaires niaiseuses qui s'en viennent. Je vous vole pas le punch, mais...
J'ai hâte.
Checkez Pain sur Start dans les prochains jours.
Ah ouais, painsurstart.com. Vous allez voir, genre, des affaires magnifiques. L'œuvre de Raph va briller en grand.
Mon Dieu. Notre œuvre collective.
Non, mais c'est parce que je suis encore en train de pas en revenir, genre, de ta chronique, là. C'est malade. Merci, Raph, pour ce moment. Je suis vraiment contente d'avoir partagé ça, puis j'ai hâte de jouer à Dog Simulator Battle Royale.
Ouais.
C'est mon préféré.
Préparez-vous.
C'est mon préféré. Ouais. J'ai très hâte. Ben, merci beaucoup, Raph, sur cette belle chronique. On passe à la conclusion de ce bel épisode du podcast de Pixel Star. Alors, je tiens à remercier mes deux collègues, Kasi et Raphaël, d'avoir participé à ce bel épisode. Un beau retour du congé pascal avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'imagination et de folie. Merci énormément d'avoir été là. On vous rappelle que le podcast est présenté en direct sur la chaîne Twitch de Paix sur Start, donc twitch.tv/paix sur Start. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux presque existants. Et bien sûr, nous avons un beau serveur Discord sur lequel nous avons une super belle communauté avec laquelle on partage de tout et de rien. Donc, on vous invite à venir sur notre serveur Discord si vous sentez, si vous cherchez des amis le soir là avec qui jouer à n'importe quel jeu, Wreckfest, Gartic Phone, nommez-les. Il y a du monde sur notre Discord, c'est sûr, vous allez vous trouver des nouveaux amis. Bien sûr, nous sommes aussi sur Instagram, et si vous avez des suggestions, des questions ou juste des beaux commentaires à nous donner, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@paysurstart.com. Merci beaucoup d'avoir été là, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, pour un autre épisode, pardon, du podcast de Pays sur Start. Bye!
Bye! Bye. We'll be right back.